Et dans les intervenants, vous aurez bien sûr un mot de monsieur le bourgmestre en fonction tout à l'heure. Le bureau d'études sera là pour venir parler de l'étude d'incidence qui va être menée dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis, on vous présentera d'abord le projet en tant que tel dans ses détails techniques. La soirée va se dérouler de la façon suivante. Là, on vous a accueillis, on a mis des chaises pour tout le monde. Je crois que tout le monde a trouvé une place. Et c'est très bien ainsi. On va vous présenter le contexte du projet en lui-même. Puis, le bureau d'études va vous expliquer en quoi concernera donc cette étude d'incidence. Et à la suite de cela, vous pouvez prendre toutes les notes que vous voulez. Ce sera à votre tour de prendre la parole pour exprimer vos observations, poser vos questions et on tentera d'y répondre le plus précisément possible. Et donc ça devrait nous conduire aux alentours de 21h puisque la présentation en elle-même va toujours plus vite que ce qu'on prévoit. Alors, on est ce soir dans une soirée qui fait partie d'un processus officiel. Le demandeur est obligé d'organiser cette soirée qui est donc la réunion d'information préalable et donc avant de déposer tout permis, voilà, là on est vraiment sur les premières esquisses du projet et ce soir on a quelques petites choses un peu officielles. On vous a demandé de vous inscrire pour une simple et bonne raison, c'est que la soirée eh bien a valeur de procès verbal et donc on doit avoir les coordonnées de tout le monde pour que ce que vous dites ce soir soit enregistré. D'ailleurs, il y a une archive vidéo qui tourne déjà derrière vous, qui va capter tout ce qui va être dit ce soir, qui va avoir une valeur légale dans la procédure. Alors le but, c'est de vous informer, de pouvoir vous permettre de parler, donner vos observations par rapport à ce projet, de proposer potentiellement des alternatives et d'identifier les points particuliers qui vont venir sur l'étude d'incidence. Le bureau Certus est là aussi pour entendre ce que vous voudriez qu'il soit étudié en particulier. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, il y a aussi un effet calendrier sur ce type de soirée. Voilà, avec les communes concernées, évidemment, mais j'en viens maintenant au calendrier si ça veut bien avancer. Donc, à la date d'aujourd'hui, 11 décembre, vous corrigerez sur le slide, c'est cette réunion d'information préalable. Et après cette réunion, vous allez avoir une vingtaine de jours, 15 jours exactement, voilà, pour la consultation publique, pour envoyer éventuellement d'autres observations, d'autres questions que vous n'avez peut-être pas envie de partager à tout le monde ce soir ou qui viendraient de voisins, d'autres riverains qui seraient concernés par le projet. Dans ces cas-là, il faut envoyer votre courrier au demandeur, à savoir d'abord à la commune de Bièvre qui va recevoir, et une copie au demandeur Luminus. On va de toute façon vous diffuser les adresses, qu'elles soient postales ou électroniques, sur le document qui vous sera remis en fin de soirée, et ce sera aussi affiché sur les écrans, et puis seulement commencera l'étude d'incidence, l'enquête publique, mais là vous voyez qu'au niveau des délais, on est déjà en termes de mois, de semestres, voire d'années avant d'être dans la vraie demande qui sera déposée. Bon. Je vais demander à Denis alors de mettre un peu moins fort parce qu'apparemment ça va un peu trop fort dans la salle. Voilà. Je demande à notre ingénieur. C'est une salle qui n'est pas facile hein, parce qu'il y a beaucoup de réverbération et en faire en sorte que ce soit confortable pour tout le monde. Merci madame. Alors, on va donc lancer cette soirée. Voilà pour les adresses dont je vous parlais tout à l'heure, que vous pouvez déjà noter, mais vous les aurez en mémo tout à l'heure pour pouvoir les avoir parmi vous. Et on va donner de toute façon les alternatives aussi par email pour pouvoir envoyer vos observations. On rappellera tous ces délais en fin de soirée pour que ce soit bien clair pour vous. Et maintenant, on va arriver dans le vif du sujet, puisque j'ai ma petite commande qui fait un peu défaut. On va vous présenter pourquoi on est réunis ce soir. Je préviens déjà que certains d'entre vous croient venir pour un projet qui n'est pas celui que vous imaginez. On va vous expliquer clairement où il est, carte à l'appui. Et pour Luminus, ce sera tout à l'heure Brice Bourget et tout de suite Nicolas Deray qui va venir présenter ce projet. Alors je leur tends micro et télécommande pour entrer dans le vif du sujet.
Merci Olivier, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Donc mon nom c'est Nicolas Deprez, je suis en charge des affaires publiques chez Luminus depuis maintenant 5 ans et j'accompagne le développement de l'ensemble de nos projets, notamment éoliens mais également autres, en région Wallonne et à Bruxelles. Donc ici, avant de vous présenter le projet de repowering, c'est-à-dire de remplacement des éoliennes existantes et d'extension sur à proximité immédiate des parcs existants, le législateur nous impose de présenter, donc de présenter qui est Luminus et dans quel contexte nous estimons au sein de Luminus qu'il est fondamental de développer des projets de production d'énergie renouvelable en Wallonie, en Belgique et a fortiori des projets tels que le développement éolien onshore. Alors, je ne sais pas comment ça marche, j'essaye d'appuyer, désolé. Sur quelle flèche dois-je appuyer ? Voilà, donc Luminus, on est le deuxième énergéticien en Belgique, derrière l'opérateur historique, à savoir Engie. Notre objectif ou notre raison d'être, c'est de participer à la création d'un monde neutre en CO2 en réussissant la triple transition énergétique, sociale et environnementale. Et pour ce faire, on a trois piliers d'action. Le premier pilier d'action, c'est qu'on est un producteur d'énergie, qu'on veut la plus verte possible. C'est pour ça qu'on vient vous voir ce soir et je vous détaillerai dans quelques instants comment nous, Luminus, on produit notre énergie qui est ensuite fournie ici à destination des clients industriels et privés en Belgique. Notre deuxième mission, c'est la fourniture d'énergie. C'est le logo que certains d'entre vous peuvent voir au-dessus de leur facture d'énergie. Le troisième métier, ça paraît un peu antinomique avec les deux autres, mais c'est de conseiller les clients industriels, les entreprises privées, les clients privés également, mais aussi les pouvoirs publics pour réduire leur consommation énergétique en développant toute une série de projets totalement novateurs, puisque nous ne nous y trompons pas, on vit vraiment pas une transition, mais une révolution dans le monde énergétique, et on voit foisonner des projets tels que des batteries de stockage, de la production d'hydrogène vert, etc. Tous des sujets pour lesquels plus de la moitié de nos équivalents temps plein, 2300 personnes, travaillent actuellement au sein de Luminus. Changer de slide. Alors, ça va aller très vite. C'est une autre spécificité de Luminus. On est le plus public des acteurs privés, donc on a un actionnaire 100% public, composé à 70% d'un actionnariat public français, EDF, qui est notre maison mère, et à 30% encore d'actionnaires publics belges, à savoir des communes situées en Wallonie et en Flandre. Donc on est le seul énergéticien 100% public. Slide suivant, donc ça c'est la composition, pour les gens qui s'intéresseraient, de notre portefeuille de production, vous le voyez. On a aujourd'hui sur le territoire belge plus de 284 éoliennes, c'est l'équivalent plus ou moins d'un réacteur nucléaire avec 741 mégawatts de capacité de production, ce qui nous permet d'être leader dans la production éolienne onshore en Wallonie. Alors ça peut être très bien d'être leader, c'est pas pour dire cocorico, ça a des avantages. L'avantage c'est que par exemple on a des équipes ici localisées au sein d'EDF Renouvelables qui veillent à la bonne installation, bon déroulement des opérations de nos éoliennes, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et vous avez nos collègues, Skander et Claude, qui sont asset managers, et qui, dès qu'il y a un défaut, comme une voiture, une ampoule qui doit être changée ou quoi que ce soit, sont là, H24, 7 sur 7, pour vérifier le bon déroulement de nos opérations. Alors, avant de passer à la présentation du projet même, quelques éléments de contexte, pourquoi on vient aujourd'hui vous voir pour renouveler les éoliennes actuellement en place et étendre le parc, ben parce qu'on est engagé dans le défi de notre génération, c'est-à-dire on est engagé sur la voie de la neutralité carbone. Il y a des engagements qui ont été pris il y a de ça quelques dizaines d'années, qui ont été confirmés au moment de la crise énergétique, qui visent au sein de l'Union européenne, en Belgique et en région wallonne, à atteindre pour 2050 la neutralité carbone, et encore plus tôt que ça, en 2030, à réduire de 55% nos émissions de CO2 par rapport à ce qui a été émis en 1990. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est un graphique. Si, voilà, au-delà du projet, je pense qu'en tant que citoyen, il est important de savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on a une consommation totale d'énergie, qui est représentée ici, sur ce graphique, vous voyez, pour se déplacer, pour produire, pour chauffer nos habitations, ça c'est ce qu'on consomme annuellement en Belgique. Et le défi, c'est d'éliminer toute la partie grise, qui sont les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, qui sont extrêmement émetteurs de CO2. Et pour éliminer cette partie grise, il va falloir électrifier le processus et les usages, c'est-à-dire remplacer, par exemple, nos moteurs thermiques par des moteurs électriques, remplacer nos chauffages thermiques par des chauffages électriques, par des pompes à chaleur, remplacer des grands fourneaux industriels par des fourneaux électriques, etc. Et ça veut dire que notre capacité de production électrique, que vous voyez ici, qui ne représente que 92 TWh, c'est-à-dire à peine 20% de ce qu'on consomme, tout le reste, ce sont des combustibles fossiles émetteurs de CO2, va devoir largement augmenter. Et donc le débat sociétal, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit mettre des éoliennes, est-ce qu'on doit mettre du nucléaire, est-ce qu'on doit mettre des centrales au gaz, est-ce qu'on doit mettre des centrales biomasse. Le défi, c'est de dire comment on va réussir en 6 ans maintenant, ou jusqu'en 2050, à éliminer de ce graphique de notre consommation tout ce qui pollue et qui émet des CO2. Pour Luminus, on a une stratégie qui se base sur 4 piliers. C'est d'abord la sobriété énergétique. Bon, c'est pas pour ça qu'il fait froid ce soir, mais en tout cas, ça fait partie des impératifs, c'est-à-dire consommer moins, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'efficacité énergétique, donc c'est avoir des processus électriques qui sont moins consommateurs et moins émetteurs, effectivement. La deuxième chose, c'est d'électrifier nos usages. Et la quatrième chose, c'est la décarbonation. Donc c'est tout ce que vous voyez foisonner aujourd'hui comme nouvelles technologies telles que la captation carbone, etc., etc. Alors pourquoi des éoliennes ? Ben, c'est dans le cadre de tout ce récit. Il est nécessaire de produire plus d'électricité, la produire localement, qu'elle soit verte et qu'elle soit pas émettrice de CO2. Et donc les éoliennes, ça permet de remplir ces quatre défis. D'abord, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, je vous l'expliquais. Ça permet de diminuer le prix global de l'énergie. Ben, on le voit ici, c'est aujourd'hui sur les marchés, vous ouvrez une application, vous regardez le prix de l'énergie. Quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, quand on est tributaire des énergies qu'on ne produit pas ici en Belgique, comme le nucléaire ou comme le pétrole ou comme le gaz, les prix explosent. Le fait de mettre des éoliennes, comme on a un marché qui est déterminé par le mérite order, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est la loi de l'équilibre entre l'offre et la demande. Au plus il y a d'éoliennes, au plus ça pousse le prix vers le bas. Le troisième élément, c'est que ça permet d'augmenter notre indépendance énergétique. Ben, on le vit aujourd'hui au quotidien, avec malheureusement les conflits géostratégiques et le monde incertain dans lequel on vit, mais ça permet d'augmenter notre indépendance énergétique. Moi, j'ai vu il y a quelques années qu'on faisait des plans de délestage. Le fait d'avoir une capacité de production localement installée, ça permettra d'augmenter notre indépendance énergétique. Et enfin, au total, ça permet, surtout avec des projets de cette ampleur, de couvrir nos besoins en électricité. Donc voilà pour l'introduction. Je vais passer la parole à mon collègue Brice, qui va vous présenter la localisation du projet.
Merci Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis le collègue à Nicolas, mon nom est Brice, et donc je suis le gestionnaire du projet que je vais vous présenter ici ce soir. Donc comme on vous l'a bien expliqué, aujourd'hui en fait on est dans la première phase officielle pour vous présenter un avant-projet. Aujourd'hui rien n'est encore définitif, il y a encore toute une série d'études qui vont être réalisées dans les 3 prochaines années. Je vais y revenir pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines années. Et ce soir on est là un petit peu pour recueillir votre avis par rapport au projet, à l'avant-projet qu'on a imaginé. Alors tout d'abord, ici c'est une photo aérienne du parc actuel que vous reconnaissez peut-être. Donc ce sont les 7 éoliennes qui ont été construites en 2010 et 2011, qui ont donc maintenant presque 15 ans d'exploitation. Donc c'est des éoliennes qui font une hauteur de 150 mètres pour une puissance de 2 mégawatts. Et notre projet ici aujourd'hui qu'on vient vous présenter, c'est de remplacer à terme ces machines, puisque la durée de vie de ces machines sera de l'ordre de 20 à 25 ans. Et pour cela, en fait, on anticipe et on commence en fait les études et les procédures nécessaires pour pouvoir faire le remplacement de ces éoliennes. Alors c'est un nom un petit peu technique, ça s'appelle le repowering. Le repowering, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va enlever ces éoliennes et les remplacer par des nouvelles éoliennes plus performantes. Voilà. Donc si on va au slide suivant, donc là je sais pas si vous voyez très bien, mais après il y aura une petite brochure pour que vous pourrez récupérer pour bien localiser ici donc l'avant-projet qu'on vous présente. Donc vous avez ici avec les points verts, ce sont les 7 éoliennes qui sont actuellement en exploitation. Et le nouveau projet qu'on envisage, c'est en fait un projet de 11 éoliennes, 11 nouvelles éoliennes, qui sont représentées par les points orange que vous voyez ici. Donc, pour ceux qui sont dans le fond de la salle, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais il y aura une petite brochure pour bien vous situer. Donc, il y aura une éolienne qui serait située ici au niveau de l'éolienne la plus à l'est, une autre là, une autre là, une autre là dans le massif boisé, une autre ici, 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 ici et ici. Voilà. Donc le long, ici vous avez ici donc la rue de Dinan, et vous avez ici la voie de chemin de fer qui part de Bièvre et qui remonte ici vers le nord. Et donc ce nouveau projet de 11 éoliennes, et encore une fois c'est un avant-projet, sur les 11, donc 9 seraient situées donc sur le territoire de la commune de Bièvre, et 2, les plus au nord, sur le territoire de la commune de Jeudines. Voilà, si on passe au slide suivant. Donc ici vous avez une vue un petit peu plus élargie du projet. Donc vous retrouvez ici donc le village de Grède qui est ici, donc la commune de Bièvre, et ici tout à l'ouest ici donc l'ouest Saint-Denis qui fait partie donc de Jeudines. Et donc le nouveau projet qu'on a imaginé, en effet, c'est un projet qui serait en partie avec des éoliennes en zone agricole, si on regarde sur le slide suivant au plan de secteur. Donc vous voyez ici les 3 éoliennes en orange sont en zone agricole au plan de secteur, et les autres éoliennes restantes seraient en fait situées dans les bois. Voilà. Alors, pour résumer, donc on parle bien d'un nouveau projet de maximum 11 éoliennes. Par rapport aux éoliennes existantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les technologies des éoliennes ont fortement évolué. Et donc maintenant, les éoliennes sont plus performantes. Et on envisage maintenant des éoliennes plus grandes par rapport à celles qui sont actuellement installées. Donc au lieu d'une hauteur de 150 mètres comme actuellement, on envisage et on va étudier des éoliennes pouvant culminer jusqu'à 250 mètres maximum en hauteur de bout de pale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le parc éolien en énergie verte produit actuellement de l'ordre de 25 gigawattheures, donc avec les 7 éoliennes actuelles. Et demain, si on construit donc ce nouveau projet donc de 11 éoliennes, on pourrait atteindre beaucoup plus d'énergie, de l'ordre de 150 gigawattheures, donc quasiment 6 fois plus par rapport à la production actuelle, tout en ayant un nombre d'éoliennes qui est un petit peu supérieur, hein, on passerait de 11 à 7, mais avec un parc donc qui serait vraiment beaucoup plus productif en termes de production verte. Et donc en termes de CO2 évité, qu'est-ce que ça représenterait? Ces 11 éoliennes permettraient en fait d'éviter de l'ordre de 22 000 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Voilà. Alors un point important aussi dans tout le développement de nos projets éoliens, un point que l'on étudie en détail, c'est donc le respect de la biodiversité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de chacun de nos parcs éoliens, on va mettre en place ce qu'on appelle des mesures de compensation. Donc ça sera au bureau d'études de définir justement le type de mesures de compensation qu'on peut mettre en place pour justement améliorer donc la biodiversité. Je prends des exemples pour d'autres parcs éoliens. Donc ici, puisque les études n'ont pas encore été réalisées, on ne sait pas encore quelles mesures de compensation pour la biodiversité on mettra en place. Mais ça peut être des mesures, par exemple, des aménagements favorables pour l'avifaune, pour les oiseaux, pour les chauves-souris, qui pourraient justement être mis en place en relation avec ce parc éolien. Voilà. Un autre point qu'on voudrait aussi un petit peu vous présenter, c'est que s'il y a une volonté de certains d'entre vous de participer dans une éolienne citoyenne, nous avons, nous, Luminus, donc une coopérative qui s'appelle LumiWind, qui pourrait justement ici mettre mise en place. Et donc, qu'est-ce que LumiWind? Donc, c'est une coopérative qui vous permet en fait d'investir avec nous dans des éoliennes par part de 25 euros jusqu'à un capital de maximum 10 000 euros et qui vont permettre en fait de recevoir en fait un dividende chaque année de l'ordre de 4% brut. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait un petit peu vous présenter. Si vous souhaitez un petit peu plus d'informations sur cette coopérative, nous avons un site internet Vous avez les références en bas du slide pour un petit peu prendre l'information. Cette coopérative est déjà mise en place dans le cadre d'autres parcs éoliens. Et ici, c'est quelque chose qu'on pourrait en effet tout à fait mettre en place dans le cadre du nouveau projet de parc éolien à Bièvre que l'on est en train d'étudier. Voilà. Je vais laisser la parole au bureau d'études pour expliquer donc ce qui va se passer dans les 3 prochaines années.
Merci Brice. Avant le bureau d'études, j'ai omis tout à l'heure de donner la parole à votre bourgmestre en fonction, bourgmestre de Bièvre, Michael Modave. Donc on va insérer, si le bureau d'études est d'accord, ce petit mot d'accueil maintenant. Et encore toutes mes excuses.
Voilà, donc finalement, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Comme il y a déjà pas mal de choses qui vont être dites, je vais être assez court. Alors j'espère, enfin vu les têtes qui sont présentes dans la salle, je leur ai dit, il y a une majorité de gens qui ne viennent pas pour ce projet-là. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais vous allez avoir quand même pas mal d'informations ici aussi. Et quoi qu'il arrive, il y aura quand même un impact visuel et autre pour tous les habitants de Oudremont, etc. Donc je tiens aussi à remercier Luminus finalement pour l'organisation de cette réunion et leur transparence, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres groupes qui sont beaucoup moins transparents. Ici, ils sont venus l'année passée nous rencontrer, enfin il y a quelques mois, pour nous expliquer qu'ils avaient l'intention de refaire un nouveau projet, etc. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, et ils venaient un peu sonder aussi la commune. Alors, qu'on soit clair, sur ce projet-là, nous, la commune, ni le collège, ni le conseil ne s'est positionné actuellement. Il faudra voir les études, etc., bien entendu. Alors, enfin, vous avez vu, hein, donc on va remplacer les éoliennes. Par contre, pour le projet d'Oudremont et de Bellefontaine, pour lequel nombreux sont ici présents, en fait, nous, Bièvre, on n'a pas beaucoup d'informations, puisque, comme monsieur l'a précisé, en fait, c'est la commune référente, c'est celle qui accueille le plus d'éoliennes. Donc, pour le projet de Oudremont et Bellefontaine, donc, c'est la commune de Jedine qui est le plus impactée et qui est la commune référente. En sachant que nous, commune, on a rencontré donc au collège il y a quelques mois maintenant le promoteur, enfin le producteur là-bas, et on a dit qu'on ne voulait pas de ce projet-là. Donc comme ça, vous le savez, Bièvre s'est positionné par rapport à ce nouveau parc. On ne veut pas, donc voilà. Bon, ben voilà, moi c'est tout. Hein. Voilà.
Merci pour cette petite précision bien importante, et finalement qui arrive au bon moment pour qu'on sache de quel projet on parle. Et maintenant, on va passer la parole à Gilles Delfos, qui représente le bureau Certus, qui sera donc en charge de l'étude d'incidence sur l'environnement.
Oui, merci, bonsoir à toutes et tous. Donc Gilles Delfos, donc je représente le bureau Certus. Le bureau Certus qui est un bureau wallon, hein, basé à Louvain-la-Neuve. Et alors pour réaliser des études d'incidence, on dispose d'un agrément qui est délivré par la région wallonne. Un agrément qui est délivré sur base des compétences forcément qu'on a pu développer au sein de notre bureau. Alors, merci. Je vais rapidement, vous pouvez passer le slide. Je vais rapidement expliquer ce que c'est une étude d'incidence. Donc c'est un rapport d'experts indépendants qui est joint à une demande de permis, donc au même titre que des plans d'urbanisme, etc. L'étude d'incidence fait partie intégrante du dossier de demande de permis. C'est un document qui va identifier, évaluer, décrire les effets sur l'environnement. Alors, quand on parle d'effets sur l'environnement pour un parc éolien, on a les effets directs qui sont liés aux émissions sonores, par exemple, à la dispersion des ombres autour des éoliennes. L'impact visuel, naturellement. Et on a aussi des incidences indirectes, qui sont plutôt liées aux raccordements qui seront nécessaires, puisqu'il y a un raccordement qui devra être fait à un poste d'injection, hein, pour pouvoir injecter l'électricité sur le réseau. Et on va évaluer tout cela à différentes échéances, puisque les permis éoliens sont délivrés pour 30 ans. Donc il s'agit vraiment d'évaluer sur toute la durée, finalement, sur toute la durée, le parcours du projet. En phase de construction, en phase d'exploitation et en phase de démantèlement, puisque comme ça a été expliqué, l'étude va aborder aussi les incidences du démantèlement, du démontage des éoliennes existantes, en plus de la construction des nouvelles éoliennes. On va évaluer les alternatives qui sont envisageables. Donc quand on parle d'alternatives, c'est est-ce qu'il est possible de positionner les éoliennes d'une autre façon. Hein, ça c'est un. Est-ce qu'il est possible d'étudier différents gabarits? Est-ce que la hauteur envisagée maximale de 250 mètres, hein, c'est quand même important, est compatible avec le site, est compatible avec les incidences qu'on veut minimiser par rapport à l'environnement? Et on va étudier des alternatives d'implantation sur d'autres sites qui seraient éventuellement plus opportuns par rapport au site en question. On va formuler des recommandations qui vont être prises en compte par l'autorité pour délivrer le permis ou pour le refuser, le cas échéant. On apporte des réponses à vos interrogations, donc toutes les remarques, toutes les questions qui seront formulées lors de la réunion aujourd'hui ou lors de la consultation des 15 jours qui va suivre la réunion, toutes ces questions-là seront analysées par notre bureau et on fournira une réponse circonstanciée à chaque interrogation. Et comme je l'ai dit, outil d'aide à la décision, c'est la pièce centrale qui permet aux instances de se prononcer par rapport à l'acceptabilité du projet, donc c'est vraiment très important. Slide suivant. Voilà, donc ici, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais aujourd'hui, on est vraiment au démarrage du projet. On parle bien d'un avant-projet. C'est un processus qui va durer quand même certains mois, voire certaines années dans certains cas. Donc l'étude d'incidence va suivre son cours. Et lorsque le projet sera mûr, on va dire, il va faire l'objet d'une demande de permis qui sera déposée à la commune, mais qui sera analysée par la région wallonne, puisque c'est l'autorité compétente ici, c'est la région, c'est pas la commune. Et donc, durant cette instruction administrative, il va y avoir une enquête publique, une enquête publique classique, je dirais, de 30 jours. Et durant ces 30 jours, vous aurez la possibilité de consulter le dossier selon les modalités qui seront fixées par la commune, avec à ce moment-là tous les plans à disposition, tous les photomontages, toutes les cartes, etc. Et durant ces 30 jours, vous pourrez bien sûr vous aussi exprimer vos craintes ou vos inquiétudes par rapport au projet ou éventuellement le soutenir si c'est votre choix. Donc la décision intervient au final pour délivrer ou ne pas délivrer un permis. Ça, c'est un petit peu le déroulement classique. Alors ce qu'on va étudier, c'est d'abord la compatibilité du projet avec l'environnement, avec les différentes contraintes d'implantation. Donc on va regarder les distances par rapport aux habitats, on va regarder les distances par rapport aux infrastructures, qu'elles soient dans le sol, ou aérienne ou même dans le ciel. On va analyser les incidences et les distances par rapport aux zones d'intérêt biologique, par rapport aux zones d'intérêt paysager, et last but not least, on regarde également s'il n'y a pas d'autres projets, d'autres parcs éoliens qui soient existants, autorisés, en phase d'avant-projet, etc. Tous ces parcs-là sont pris en compte, ce qu'on doit étudier, ce qu'on appelle les impacts cumulatifs des parcs éoliens. Donc rapidement, on va réaliser des photomontages, on va réaliser des cartographies de zones de visibilité des éoliennes, on va s'intéresser aux impacts sur le patrimoine et les biens classés, on va réaliser des études de l'impact sonore des futures éoliennes, c'est important aussi, on va évaluer quelles seront les différences par rapport aux éoliennes existantes, je crois que c'est surtout ça qui vous intéresse, en ce qui concerne le bruit, en ce qui concerne la dispersion des ombres, les impacts sur les activités socio-économiques, et je l'ai dit, la compatibilité aux infrastructures. En ce qui concerne le milieu naturel, on va dire, il y a différents types de sujets qu'on aborde. Il y a tout ce qui concerne le milieu physique, les écoulements d'eau, l'impact sur les terres, etc. En ce qui concerne le milieu biologique, ça a été évoqué, mais les études sont vraiment très poussées à ce niveau-là, puisqu'il s'agit d'identifier les espèces qui fréquentent le site, qu'il s'agisse de mammifères, qu'il s'agisse d'oiseaux, les chauves-souris naturellement, et en fonction des espèces qui sont identifiées, il y a des recommandations, des mesures qui peuvent être prises, soit pour éviter des incidents, soit pour atténuer les incidents, soit pour les compenser, et donc ça fait l'objet de toute une série d'investigations sur le site. Je l'ai dit, on formule des recommandations, on va tenir compte des caractéristiques du projet naturellement. On va également évaluer les impacts transfrontières, alors peut-être qu'il y a des personnes de nationalité française dans la salle, on n'est pas très loin, et donc c'est important évidemment d'en tenir compte pour dans l'étude d'incidence. Et je termine là-dessus, c'est évidemment fondamental de connaître votre avis. Vous êtes riverain d'un parc éolien, donc vous avez peut-être un peu de recul aussi par rapport aux incidences que génèrent les éoliennes, et donc c'est naturellement aujourd'hui une bonne occasion de faire part de vos inquiétudes, ou si vous subissez des inconvénients, des nuisances, n'hésitez pas à l'expliquer. Merci. Voilà. Dernier slide, effectivement, c'est la procédure. Un petit rappel, 15 jours après cette réunion aujourd'hui, pour pouvoir envoyer vos remarques. Alors, il y a une petite subtilité. Normalement, c'est 15 jours calendrier, donc si on fait le calcul, on devrait être au 26 décembre. Hein. Maintenant, il y a une suspension des délais qui est prévue dans la réglementation entre Noël et Nouvel An. Ce qui fait que vous avez un petit peu de temps supplémentaire pour envoyer vos remarques. Ça va peut-être être dit plus tard, mais je crois que c'est important de le signaler. Et donc, si nos calculs sont exacts, vous avez jusqu'au 4 janvier pour envoyer par écrit vos questions, vos remarques. Merci.
On va peut-être revenir sur l'autre présentation, Brice Bourget, pour qu'on puisse arriver sur la carte, puisqu'on en aura peut-être besoin. Et maintenant, ça va être votre tour. Merci d'avoir écouté religieusement les auteurs de projets, représentants du bureau d'études Tertius également, qui sont là pour répondre à vos questions, à vos interrogations et à vos observations également en ce qui concerne ce projet éolien. Effectivement, donc on sait que parmi vous, il y en a qui sont venus pour un autre projet éolien qui ne fait absolument pas l'objet de la soirée de ce soir. Donc par rapport à ce repowering, donc où on passera de 7 à 11 éoliennes en augmentation de capacité. Alors je sais pas qui veut lancer le bal, c'est toujours très compliqué. La première et la dernière question, là c'est la première, on en a pour une bonne heure quart pour échanger ensemble. Et avant d'arriver à la première personne, je rappelle que cette partie est filmée, enregistrée. Donc tout ce que vous allez dire tient compte de procès-verbal, ce sera inutile de le répéter par papier. On a d'ailleurs des représentants de l'administration communale qui sont là pour faire en parallèle un procès-verbal écrit, qui sera donc aussi interprété par rapport à la vidéo, qui est une obligation légale pour l'auteur de projet. Maintenant, toutes les réunions d'information préalables doivent être non seulement enregistrées, mais également filmées. Et puis après, vous aurez les fameux 15 jours augmentés de quelques-uns pour arriver au 4 janvier. Merci de l'avoir calculé pour nous, pour pouvoir écrire d'une part à l'administration communale de Bièvre. On vous rappellera les adresses et elles sont sur le feuillet qui vous est distribué maintenant. Et on vous demande de faire une copie de ces observations par courrier éventuel également à l'auteur de projet, à savoir Luminus, dont vous avez également les adresses. Voilà, tout est sur l'écran aussi pour le moment. Alors, je ne sais pas qui a une question à poser à l'auteur de projet ou à l'étude d'incidence. Voilà, monsieur, vous allez commencer. Alors, on va chaque fois dire nom et localité, nom, prénom et localité, s'il vous plaît.
Coulomb-Val Joël, Grèce. Vous allez injecter l'électricité sur le réseau. Est-ce qu'avec tous nos panneaux solaires, vu qu'il y en a déjà beaucoup, parfois les onduleurs décrochent, est-ce que ça ne va pas encore faire décrocher encore plus nos onduleurs?
Ah bah, c'est une question, à mon avis, à laquelle on peut répondre chez Luminus. Question déjà très technique, Brice Bourget. Est-ce que ça va augmenter le décrochage de ceux qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le parc éolien, nous, donc au niveau de la tension de sortie des éoliennes, on se raccorde directement en fait au poste électrique le plus proche. Donc ici, on n'a pas encore entamé les démarches de consultation du gestionnaire de réseau de distribution et du gestionnaire de réseau de transport. Ça va être réalisé prochainement. Mais donc, tout ça pour dire que ici, nous, au niveau du parc éolien, on injecte directement au niveau des postes sources, des postes de transformation. Tandis que les projets photovoltaïques dont vous évoquez, ici c'est vraiment sur le transport local, dans les rues, et donc il n'y a vraiment aucun lien, j'ai envie de dire, entre les deux. De toute façon, que ça soit au niveau du projet photovoltaïque ou que ça soit au niveau du projet éolien, il y a des conformités synergrites qui doivent être respectées. Et donc, voilà, il y a aucun lien entre la production des éoliennes et les décrochages qu'il pourrait y avoir.
Donc, si je résume, ça ne va pas augmenter ce phénomène de décrochage que monsieur observe déjà aujourd'hui. Ça n'est pas lié directement à la présence, à la proximité d'un parc éolien comme celui dont on parle ce soir. Il y avait une autre main qui se levait, mais je ne l'ai pas enregistrée. C'était madame. Voilà. Et donc, on va prendre cette petite habitude. Nom, prénom, localité. Comme ça, on sait qui s'exprime.
Donc Marilyn Van Houten, Bellefontaine, vous parlez de l'importance de produire local. Est-ce qu'il y a vraiment besoin, vu la densité de population par ici, d'une production qui va être augmentée, je ne sais pas combien, là. On parle de 43 000 ménages, et y a-t-il vraiment 43 000 ménages par ici?
La question c'est, est-ce que cette électricité va être produite dans la région? Pas forcément, est-ce aussi on peut-être répondre?
Elle va être produite dans la région, mais est-ce qu'elle concerne vraiment une population qui n'est pas aussi dense que
être produite sur place, mais peut-être pas consommée sur place. C'est ça, où elle part finalement, cette électricité?
Oui, ben, comme je disais en fait à la question précédente, en fait, toute la production éolienne est réinjectée via un poste ensuite et est réinjectée en fait directement sur le réseau. Donc en effet, vous avez raison, ben, l'électron qui va être produit par les éoliennes ici à Bièvre ne sera peut-être pas forcément consommé localement, mais sera réinjecté sur le réseau et en fonction des besoins de consommation à un moment T, ben, pourra aller se balader justement et ailleurs sur le réseau. Donc c'est la spécificité du réseau. Donc nous, voilà, notre production éolienne, on va la réinjecter dans le réseau. Et puis ensuite, les spécificités du gestionnaire de réseau est toujours d'équilibrer la production et la consommation. Mais c'est vrai que voilà, ici, nous, notre objectif, c'est réinjecter sur le réseau électrique. Voilà.
À l'échelle de la Belgique, parce que on est dans une échelle de circuit court, donc
ultra territorial, en effet, sur le réseau. Beaucoup plus large, en fait.
Beaucoup plus large que la simple région qui nous occupe ce soir. Alors, n'hésite pas à lever les mains, même quand on est en train de répondre à une question, comme ça je sais où je peux aller par la suite. Je ne sais pas qui a une autre question, on va aller à l'avant. Alors, nom, prénom, localité.
Mélanie Georges, j'habite à Avlanche, mais je travaille en fait pour le parc naturel Ardennes Méridional. Ma collègue est ici aussi à l'arrière. Donc nous, on sera sans doute amené à remettre un avis sur le projet, puisqu'il fait partie du parc. Donc on vous incite, nous on incite toujours à la concertation en amont pour la plupart des gros projets sur le territoire. Donc voilà, on peut s'échanger nos coordonnées pour la suite. J'avais plusieurs questions plus précises. Par rapport justement à l'autre projet à Oudremont, dans l'étude de la covisibilité, le projet, vu qu'il n'est pas encore annoncé officiellement, qu'il n'y a pas encore de RIP, est-ce que si la RIP n'arrive pas à un certain moment, est-ce que ça va être inclus? Donc ça, c'est ma première question. J'ai une autre question aussi, c'est par rapport au projet existant. Est-ce qu'il y a déjà eu une mise en place finalement d'un monitoring sur les espèces, sur le parc existant? Et est-ce que ça va être inclus aussi dans l'étude d'incidence future? Comment ça va se faire?
Alors, je crois que la question est pour Sersus, donc je vais demander à Gilles Delfosse de saisir le micro et d'abord de parler peut-être... Alors on sait que tous les projets qui ont été ripés sont pris en compte dans l'étude d'incidence. Ici, on parle d'un projet qui ne l'est pas encore, donc il sera étudié ou pas ou...
Non. Alors si le projet n'a pas fait l'objet d'une RIP, on prend le parti de ne pas l'intégrer dans l'analyse qu'on réalise. Parce qu'en fait, il n'a pas d'existence administrative. La RIP, c'est vraiment l'officialisation d'un projet. S'il n'y a pas encore eu de RIP, c'est encore quelque chose qui est dans les cartons, on va dire, en projet de développement, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une démarche. Donc là, malheureusement, on doit bien considérer un temps zéro, je dirais, pour l'analyse. Ça, c'est une première chose. Maintenant, bon, ici, l'étude va durer un an, deux ans, à mon avis, minimum. Donc, d'ici là, on peut imaginer que le projet aura fait l'objet d'une consultation s'ils veulent le faire avancer.
Et donc, il pourrait faire partie de l'étude en cours d'étude.
C'est ça, oui, jusqu'à la fin, en fait. Si survient dans un an et demi et qu'on était prêt à déposer, je dirais, l'étude pour ce présent projet, il va falloir adapter l'étude pour en tenir compte. Voilà.
Voilà pour répondre à la première question. Et puis il y avait la deuxième question, j'ai l'impression qu'elle est plus sur la coordination entre un parc naturel et le bureau d'études pour voir ce qu'on mettrait comme question qui vous intéresse dans cette étude.
Non, c'était plutôt sur le suivi du parc existant par rapport aux espèces principalement animales. Comment ça va être inclus dans l'étude d'incidence future?
Oui, alors sous contrôle évidemment de l'exploitant, hein, mais pour des projets de repowering, ce qu'on utilise comme données, c'est les monitoring qui sont faits au niveau des éoliennes par rapport à la fréquentation des chauves-souris. Voilà, ça évite effectivement d'implanter, par exemple, un mât spécifiquement pour un projet où il n'y a pas encore d'éoliennes. Ici, on peut effectivement normalement réaliser le monitoring sur une éolienne. Et c'est des données évidemment qui sont précieuses pour l'étude.
Alors, précision de la part de Luminus, présentez-vous peut-être, on ne vous a pas encore entendu ce soir.
Je m'appelle Claude Barbier, je fais partie de l'équipe d'Asset Management, comme on appelle ça chez nous. C'est les personnes qui gèrent les éoliennes à partir du moment où elles ont été réceptionnées, qu'elles sont sur les réseaux et qu'elles produisent. Donc, on fait partie tous les deux de l'équipe du Sud.
Vous qui s'occupez du parc actuel en fait.
Candor s'occupe du parc et moi je travaille en collaboration.
Très bien. Avec lui.
Par rapport au suivi, donc il y a deux choses. Pour un cas de repowering justement, là, je ne sais pas si c'est la législation, mais en tout cas le DNF a changé sa façon de fonctionner par rapport au monitoring. Donc on est censé aller placer des micros qui sont mis à hauteur du bas de pale, plus des micros qui sont mis à 2 ou 3 mètres au niveau du sol pour avoir un enregistrement de la population de chauves-souris qui se trouve dans la région pour voir si éventuellement il y a un impact qui peut influencer le positionnement des machines. Et alors aussi en général, les machines, alors sur le parc de Bièvre, c'est pas le cas parce que c'est un ancien parc, mais les machines sont équipées de systèmes justement qui sont là pour monitorer et pour arrêter les machines quand les conditions sont réunies pour que soit les chauves-souris soient sorties, ou alors si l'étude d'incidence, par exemple, a révélé qu'il y avait certaines espèces d'oiseaux qui migraient peut-être, on a le cas par exemple du côté de Villers-le-Bouillet dans la province de Liège, où on a des hirondelles qui migrent au mois de juin ou fin mai, les machines sont arrêtées pendant toute la période migratoire. Donc il y a vraiment toute une série de choses, et comme le disait tout à l'heure monsieur, au niveau de l'étude d'incidence, c'est vraiment le point de base par rapport au permis, donc ça sert aussi de référence pour nous dans tout ce qui est configuration des machines.
Et ces points-là seront donc analysés pour voir quelle sera l'incidence par rapport à l'augmentation du parc, l'augmentation des hauteurs, de la puissance, etc. On va aller chez monsieur qui était courageux, il est venu à vélo ce soir, et donc on le remarque bien entendu, avec une nouvelle question. Comment vous appelez-vous?
Oui, bonsoir, je m'appelle Pierre Delaz, j'habite à Bayamont. Quand on a installé les 7 éoliennes précédentes, on avait fait des tas de réunions, on s'est posé beaucoup de questions, mais finalement le dernier mot, c'est la région wallonne qui l'a. Ici, ça va être la même chose de toute façon.
Oui. Vous voulez dire qu'on vous réunit pour rien, selon vous?
Non, c'est pour information, mais on écoute des tas de gens, mais c'est quand même la région wallonne qui décide.
Alors, au niveau de la législation, donc on l'a peut-être évoqué rapidement, donc dans une procédure de permis unique classe 1, puisqu'on a plus de 3 mégawatts au niveau de la puissance des éoliennes. Et en effet, l'autorité compétente, ce sont en première instance les fonctionnaires techniques et délégués de la région wallonne, donc des fonctionnaires. Et ensuite, s'il y a une deuxième instance qui est amenée à se prononcer sur le dossier, alors c'est le ministre qui en effet de la région wallonne, ministre compétent, qui est amené à se prononcer en effet sur l'octroi ou le refus ou l'octroi partiel du dossier. Mais pendant la procédure d'instruction du dossier, si bien les communes et aussi toute une série d'instances comme le parc notamment en effet seront consultées et vous serez aussi amené à émettre vos remarques, pas sur cet avant-projet mais sur le projet final qui sera déposé. Et donc là, il y aura une enquête publique de 30 jours où là, à nouveau, vous aurez l'occasion de pouvoir remettre vos remarques sur le projet final. Un petit mot peut-être que j'ai peut-être pas précisé dans ma présentation au niveau du planning. Donc là, on parle bien en effet sur 2 à 3 ans d'années pour pouvoir bien étudier en fait la zone. Pour rebondir à ce qu'a dit Claude, donc en effet, on fait un monitoring au niveau du parc existant qui sera inclus dans l'étude d'incidence. Mais comme les zones sont à peine et sont différentes puisque on va vraiment plus vers le nord-ouest, il y aura aussi d'autres relevés, d'autres études qui seront faites et qui couvriront bien entendu toute la surface du nouveau projet.
Une question sous-jacente que j'entends et je crois que ça va abonder dans mon sens, mais c'est demander peut-être à Gilles Delfos du bureau d'études Certius, finalement quel est le pouvoir d'adaptabilité que quelqu'un qui est dans la salle ce soir peut avoir sur un projet comme celui-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut amener comme changement au final, vous qui avez l'expérience d'en avoir accompagné beaucoup d'autres?
C'est pas une question facile, hein. Mais disons que le rôle des personnes présentes aujourd'hui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que je pense que les instances, les autorités, qu'il s'agisse de la commune si elle délivre les permis, ce qui n'est pas le cas d'un projet éolien, ou la région wallonne, et donc plus spécifiquement le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, prennent quand même le pouls finalement d'une opposition éventuelle ou de certaines craintes par rapport à un projet. Et donc dire que la vie de la population n'a pas d'importance, je crois que ce serait pas correct. Maintenant, il y a cette question d'intérêt général aussi qui doit être prise en compte par les autorités, qui doit faire la balance des intérêts entre les incidences pour les personnes, les impacts éventuels sur la biodiversité. Et en contrepartie, de la production d'électricité dont on a besoin pour atteindre des objectifs. Et donc, voilà, c'est cette balance d'intérêt, c'est les instances et les autorités qui le font. Voilà.
Très bien, mais comme ça, on sait pourquoi on est là ce soir. Et on a encore une question qui arrive de madame. Quels sont vos noms, prénoms et localités?
Fabienne Delverdange, Bellefontaine. Enfin, deux questions, en fait. Vous ne tiendrez pas compte du projet futur de Jodine, mais par contre, le projet futur de Jodine va être impacté par le vôtre. Ils vont devoir tenir compte de votre étude d'incidence, je pense. C'est peut-être bien pour les gens de Jodine, ou pas. Et autre question plus pratique, où est-ce qu'on pourrait voir des éoliennes de ce type-là? Parce que 200 mètres, on ne se rend pas compte de ce que ça peut donner. Est-ce que ça existe déjà par ici?
250 mètres, hein, si je ne m'abuse, en présentation du projet, hauteur de pales. Ça, c'est une bonne question pour Brice Bourget, peut-être, ou pour Nicolas, de près. Où est-ce qu'on peut déjà voir, est-ce qu'il y a déjà en Belgique des éoliennes de ce type-là qui font 250 mètres de haut et qui ont cette puissance?
On peut répondre aux deux questions, je compléterai. Donc d'abord, nous, on tiendra compte, puisque d'ici là, le projet de Jodine sera ripé, on aura l'obligation d'en tenir compte. Monsieur aura l'obligation d'en tenir compte dans l'étude d'incidence. Nous, comme on a ripé, eux seront obligés d'en tenir compte dans leur étude d'incidence. Et sur des éoliennes de 250 mètres, donc on en a installé pour la première fois dans le port de Gand, donc ça c'est un peu loin, évidemment. Il y a des éoliennes de 200 mètres qui se situent généralement en forêt, donc on en a quelques-unes, notamment à Lierneux, donc c'est déjà un peu plus proche. Et donc c'est le modèle standard qui va se développer en Belgique, puisque, comme on l'a dit la fois passée, à l'équivalence d'une Citroën C2 qui n'est plus produite, les producteurs d'éoliennes ne produisent plus d'éoliennes de 150 mètres et ne produisent plus que des éoliennes de 200, 230 ou 250 mètres.
C'est la raison pour laquelle aussi on n'attend pas la fin de vie des éoliennes actuelles pour les changer, c'est parce qu'on a intérêt à les changer maintenant.
Il y a d'intéressant qui n'a pas été dit, je ne vais pas rentrer dans la formule mathématique, mais c'est qu'en grappillant quelques mètres, par exemple entre 200 et 230 mètres, on voit que c'est x3, voire x5, la capacité de production d'électricité. Donc parfois, pour un différentiel de 20 mètres de hauteur, qui ne se voit pas à l'œil nu, entre 200 et 210 mètres et 232 mètres, on va produire 3 à 4 fois plus d'électricité. Donc il y a vraiment un intérêt sociétal à le faire.
Bon, parfois on utilise du jargon, le fait de riper, ça veut dire d'avoir une réunion comme celle-ci, une réunion d'information préalable, rip en résumé. Donc quand on rip un projet, ça veut dire qu'on a tenu la première réunion qui est celle de ce soir. C'est à vous monsieur.
Philippe Delécluse de Bellefontaine, moi je voulais savoir comment vous choisissez l'emplacement et pourquoi cet emplacement-là. Voilà.
Le comment et pourquoi du choix des emplacements qu'on voit avec tous ces points jaunes sur cette carte, Brice Bourget?
Oui, tout à fait. Donc, on le voit pas ici sur cette carte, mais il y a toute une série de paramètres techniques qu'on a dû respecter, notamment les distances entre les éoliennes, donc pour limiter ce qu'on appelle les pertes de sillage. Donc, quand l'éolienne tourne, donc il y a des turbulences qui sont faites de part et d'autre du rotor, et en amont et en aval du rotor en fonction des vents dominants. Et donc, premier point, c'est qu'on doit respecter certaines distances entre les éoliennes. Deuxième point, on ne le voit pas aussi sur cette carte, mais il y a aussi toute une série de distances minimum à respecter par rapport aux habitations, même si pour ce projet-là, on est à des distances qui sont relativement très grandes et confortables par rapport aux habitations. Mais ça, c'est un point qu'on a vérifié et qu'on a respecté. Et ici, j'ai envie de dire, l'idée, ou en tout cas l'avant-projet qu'on aimerait dessiner, bâtir et vous présenter, c'était un projet de deux lignes qui allaient s'étendre vers le nord-ouest pour justement suivre en fait la route et la voie de chemin de fer, tout en ayant en fait une logique un petit peu paysagère d'une première ligne ici, parallèle ici à la voie de chemin de fer, et une deuxième ligne derrière, aussi plus ou moins parallèle à cette première ligne. Donc ça, c'était l'idée qu'on a aujourd'hui et qu'on vous présente en tant qu'avant-projet, mais encore une fois, on est là pour justement recueillir vos avis, vos remarques. C'est pas le projet qui va être finale qui va être déposée, ça c'est certain, il va évoluer. Et on est là justement pour un petit peu recueillir vos avis, mais voilà un petit peu les grandes lignes qui ont fait que bah voilà, on vient vous présenter cet avant-projet.
Alors monsieur demande pourquoi Bièvre ? Pour des nombres de vents notamment
Pourquoi Bièvre ? Donc première chose, donc il y a une volonté de la région wallonne de donc d'accélérer, de déployer donc l'éolien, les énergies renouvelables de façon générale, mais l'éolien en particulier, et de définir ce qu'on appelle des zones d'accélération et notamment donc les remplacements des éoliennes actuelles. Pourquoi ? Parce que Nicolas vient juste de l'expliquer. Par rapport à une éolienne, les éoliennes actuelles, on va monter en hauteur et augmenter, on va dire, le diamètre de rotor, parce que ici, je l'ai pas précisé, mais le diamètre de rotor des éoliennes actuelles est de l'ordre de 90 mètres, tandis que les nouveaux diamètres de rotor qu'on envisage pour les éoliennes de l'ordre de 250 mètres maximum seront beaucoup plus grands, de l'ordre de 160 à 170 mètres. Et donc, de ce fait-là, en fait, ben, les éoliennes vont produire 3 à 4 fois plus. Et donc, c'est vraiment, en fait, une évolution de dire, voilà, on installe, on remplace les éoliennes actuelles avec des éoliennes plus grandes, plus performantes, tout en essayant de limiter les impacts et on produit beaucoup plus d'énergie. Donc c'est vraiment ça l'idée qui est présentée ce soir. Voilà.
Alors on va retourner chez madame qui avait déjà posé une question tout à l'heure, mais qui en a une autre qui vient d'effleurer son esprit ou pour lesquelles vous avez pris note et c'est très très bien.
Oui, donc puisqu'on parle justement de l'emplacement des éoliennes, forcément, c'est sur des terrains. Ces terrains appartiennent à qui ? Sont probablement mis en location par les propriétaires de terrains, moyennant certainement une somme très alléchante. Est-ce que ces propriétaires sont informés d'éventuels inconvénients, à savoir, et là je n'ai pas les réponses, mais éventuellement une taxation en fiscalité, des coûts de démantèlement des éoliennes une fois qu'elles arrivent en fin de vie ? À qui est-ce que ces coûts sont imputés et aussi est-ce qu'effectivement fiscalement il y a... Enfin bon, moi je n'ai pas de terrain à vendre ni à mettre en location, mais je me demande si les gens qui pourraient se laisser tenter sont complètement informés des impacts. Voilà.
Alors d'abord, est-ce que, un, vous avez déjà des contacts avec les terrains sur lesquels sont positionnés ces points jaunes avec les propriétaires qui sont concernés ?
Oui, bien sûr. Donc ici, on vous présente bien entendu un avant-projet pour lequel donc on a des accords fonciers avec les propriétaires des terrains concernés. En effet, c'est des terrains privés, donc on n'achète pas les parcelles. On conclut, on s'accorde avec le propriétaire avec ce qu'on appelle un droit de superficie. C'est quoi ? Une option de droit de superficie, précisément. Donc c'est quoi ? C'est en effet une sorte de location que l'on donne aux propriétaires pour pouvoir exploiter l'éolienne pendant 20, 30 ans. Et donc c'est une somme, en effet, un loyer annuel qui est versé aux propriétaires pour une occupation de X mètres carrés pendant justement l'exploitation du parc éolien.
Alors est-ce que vous informez bien ces propriétaires de ce qui est fiscal, des conséquences ? Et on parlait notamment du fait de démanteler les éoliennes. Ça, alors, c'est à votre charge et pas celle du propriétaire, si je ne m'abuse.
Oui, alors tout à fait. Donc la particularité du droit de superficie, c'est-à-dire que nous, Luminus, en fait, nous restons propriétaires donc des installations qui seront sur le sol. Et quand on installe en fait un parc éolien, donc la région wallonne émet des conditions très strictes. Et avant de commencer la construction d'un parc éolien, on doit mettre en place en fait ce qu'on appelle une garantie bancaire. C'est quoi ? C'est une somme, une garantie qui est versée sur le compte de la région wallonne en cas de faillite pour l'éventuel démantèlement. Ça c'est la première chose. Et de toute façon, nous, donc dans nos prévisions, dans nos constructions, donc on prévoit en effet un budget pour pouvoir démanteler les éoliennes au moment voulu. C'est en effet ce qu'on fera pour les 7 éoliennes actuelles.
Ils vont être complètement démantelées en même temps qu'on construit les nouvelles finalement.
Voilà, donc ça se fera en plusieurs étapes. Donc avant de construire en effet les nouvelles éoliennes, nous prévoirons, organiserons donc le démantèlement des éoliennes actuelles pour pouvoir justement ensuite construire le nouveau projet de repowering. Mais donc ça se fera en plusieurs étapes. Donc on parle bien donc de démantèlement. Donc on enlève les fondations en béton, la totalité de l'éolienne, et une bonne partie, 90% de l'éolienne, ensuite sera recyclée parce qu'une éolienne, c'est essentiellement donc des matériaux ferreux, il y a toute une série de matériaux qui peuvent être revalorisés, recyclés, et donc ça a une certaine valeur, tout ça sera mis en place ici dans le cadre du démantèlement du parc actuel.
Très bien, madame a une sous-question, mais vous y avez répondu, Brice, en même temps. Il y en a encore une. Attendez, je reviens, je fais mon petit carrousel. Attendez, comme ça tout est enregistré.
Mais j'attends quand même une réponse sur la fiscalité, j'en ai pas eu.
Fiscalité. C'est quoi exactement votre question ?
Je suppose, je prends une somme au pif, disons, voilà, on reçoit 15 000 euros, 20 000 euros par an pour louer son terrain. Ils sont fiscalement déclarables, je présume.
Alors Nicolas peut-être.
La taxation normale, c'est un montant qui se met à l'IPP, donc c'est comme un loyer, comme si vous louez un appartement ou autre, il n'y a pas de régime taxatoire spécifique.
Oui, ça arrive, donc c'est un revenu locatif comme un autre revenu qui sera taxé comme la loi belge doit s'appliquer. Voilà pour répondre à ces questions un peu fiscales. Je vous avoue que c'est assez rare qu'on nous pose ce genre de questions. Qui d'autre a une question pour l'auteur de projet ou pour le bureau d'études? Alors, on va aller chez monsieur qui n'a pas... Ah, si vous avez déjà parlé, mais c'est pas grave.
Pour toutes ces éoliennes là dans les bois, il va falloir faire des chemins pour amener les éoliennes. Ici, les anciennes, il y avait le chemin qui est déjà fait. On a déjà refait la route pour savoir venir les camions. Qu'est-ce qui va... Les propriétaires qu'on va devoir déboiser pour passer les éoliennes.
Comment ça se passe techniquement pour aller construire les éoliennes là au milieu des zones boisées que l'on voit sur la carte?
Oui, donc en effet, vous avez raison, pour pouvoir construire et exploiter les éoliennes, on a besoin d'un chemin pour pouvoir accéder. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est dans la majorité des cas, si c'est possible, de réutiliser les chemins existants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder à une éolienne, on a besoin d'un chemin empierré de 4 mètres de large, avec un coffre de pierre pour suffisamment... costaud pour pouvoir justement accueillir donc les charrois qui vont être amenés. Et en effet, il y aura nécessité de déboiser une partie pour la construction d'éoliennes et éventuellement une partie pour pouvoir faire l'acheminement des éléments des éoliennes. Mais tout ceci sera bien réfléchi et nous essaierons dans la possibilité, si c'est possible, justement de déboiser le moins possible pour pouvoir justement accéder jusqu'aux éoliennes. Mais donc, un, on réutilise au maximum les chemins existants et deux, on analyse justement les meilleurs itinéraires possibles pour pouvoir faire en sorte de déboiser le moins possible.
On parlait de compensation tout à l'heure, c'est le genre de choses qui est compensé aussi dans un projet éolien, le fait de devoir enlever les arbres.
Tout à fait. Donc ça sera le travail du bureau d'études justement de quantifier ce déboisement ou en tout cas ces coupes d'arbres et puis ensuite de définir justement les éventuelles compensations qui devront être mises en place pour compenser en effet cela.
Alors quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé ce soir, vos noms, prénoms et localités.
Catherine de Frècheville de Bourg-Saint-Neuve. Vous parlez ici de repowering. Je voudrais savoir dans quelle mesure on pourrait pas plutôt parler de nouveaux projets, parce que j'entends qu'il va falloir déboiser. Je vois qu'en fait, ce ne sont pas les anciennes éoliennes qui vont être rénovées, mais c'est tout un nouveau parc, en fait, qui s'installe, plus au nord, dans les bois, plus haute, etc. Donc, quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'en fait, c'est un repowering et pas un nouveau parc qui s'installe?
Oui. Donc en effet, c'est un projet. On peut considérer ceci comme un nouveau projet, mais une partie en fait de la zone ici. Donc il y a quand même un parc ici existant de cette éolienne. Et donc en fait, c'est dans notre réflexion qui s'est mûrie, on va dire, sur les derniers mois, sur les dernières années, que donc quand on a réfléchi justement à ce repowering, on a identifié un potentiel de pouvoir justement étendre en fait le parc éolien au nord-ouest. Et donc on s'est dit, ben voilà, au lieu de séparer justement les deux zones, on a voulu justement avoir une certaine cohérence et d'étudier en fait les deux projets, enfin le projet dans son ensemble, donc à la fois le remplacement des éoliennes existantes et l'étendue, l'extension, on va appeler ça comme ceci, du parc éolien. Et donc c'était vraiment dans un souci de cohérence, de globalité, mais c'est vrai, on peut considérer ceci comme un nouveau projet en remplacement, en effet, du parc actuel, oui.
Oui, madame a raison, en fait, de jouer un peu sur les mots, parce que le repowering, c'est une partie du parc, finalement, où on va mettre moins d'éoliennes pour remplacer et augmenter la capacité, mais on en profite pour étendre le parc avec ces 11 éoliennes. Donc, c'est vrai que le terme repowering était à préciser. Merci pour votre question. Et votre voisin en a une également.
Oui, donc Gauthier Deschamps de Beaurain. J'avais une question donc au sujet des chauves-souris, si on peut revenir là-dessus. Vous disiez que vous mettiez des détecteurs sur les éoliennes existantes pour justement mesurer la présence de ces chauves-souris et donc le futur impact du parc. Donc si c'est le cas, il y a un détecteur en ce moment sur les éoliennes existantes qui sont a priori la plupart en zone agricole, alors que le parc va se développer majoritairement au nord, en grande partie en milieu forestier, où l'impact sur les chauves-souris est bien plus important qu'en zone agricole. Donc, quand on tient un nouveau projet, on installe un nouveau mât avec des nouveaux détecteurs dans, en général, la zone qui est la plus intéressante en termes de chauves-souris. Et ici, du coup, le détecteur, il sera l'endroit a priori le moins intéressant.
C'est peut-être une question pour Gilles Delfosse ou peut-être pour vous, Brice, d'abord.
On peut faire une première partie de question, de réponse en tout cas. Donc vous avez tout à fait raison, il est très fort probable qu'on devra en effet installer un nouveau mât de mesure pour couvrir en effet la partie nord-ouest du projet. Ceci devra en effet être concerté, discuté avec le bureau d'études. En effet, l'environnement ou le milieu est différent, en effet, comme vous l'avez bien vu ici au nord-ouest par rapport aux éoliennes ici. Sachant que le monitoring ici des éoliennes, je ne sais pas si c'est sur l'éolienne la plus extrême à l'est ou celles qui sont en zone agricole, mais c'est vraiment un ensemble de données qui seront collectées pour justement bien analyser l'ensemble de la zone. Ça c'est un fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole demandé par le DNF, comme disait Claude, est très complet pour un repowering. Donc il y a des études de suivi sur le bridage, sur la mortalité, tout ceci qui doit être mis en place. Et donc ceci sera fait en concertation avec le bureau d'études.
Alors Gilles Delfosse, vous n'allez pas vous contenter en fait de ce qui est mesuré pour le moment sur les mâts existants.
Non, ben donc là, comme l'a précisé Monsieur Bourget, on va effectivement devoir, parce que les enjeux sont pas les mêmes, et on pourrait vous cacher le développement éolien en zone forestière se heurte à quand même pas mal de difficultés. Hein. Il y a pas mal de projets qui sont en développement, mais il y a quand même des réticences de la part notamment du DNF, et notamment parce que l'impact potentiel, je dirais, sur certaines espèces de chauves-souris qui chassent en zone forestière est pas encore bien déterminé, bien connu. Il y a des études qui sont en cours d'ailleurs. Enfin voilà, là je m'égare un petit peu par rapport au sujet et à la question précise, mais voilà, en tout cas il y a vraiment des enjeux importants dès lors qu'il y a des éoliennes en forêt, et donc ça doit faire l'objet d'investigations complémentaires.
On a compris sur les chauves-souris, mais pas que, puisque l'environnement global est différent, et donc l'analyse qui va être poussée va être différente aussi que du parc actuel. Je crois que monsieur Avello avait encore une question tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je vais me rapprocher de lui. Dites-nous.
Les 7 éoliennes actuelles, elles appartenaient à WindVision. Elles appartiennent toujours à WindVision?
C'est-à-dire les 11 qui arrivent?
Non, c'est les actuelles. Le propriétaire, pour l'instant, c'est...
Oui, donc en effet, le premier parc a été développé par WindVision, qui s'appelle maintenant Rhener Energy, mais ce parc a été racheté par Luminus en 2021, quelque chose comme ceci. Et donc maintenant, le propriétaire de ce parc-là, c'est Luminus, et ce n'est plus WindVision, en effet. Donc l'exploitant ici de ce parc, c'est Luminus. Votre point de contact, c'est Luminus pour ce parc. Voilà.
Allez-y, monsieur, rappelez-nous vos noms, prénoms.
De l'écluse Philippe de Bellefontaine. Donc, moi, je voulais savoir si le fait de rajouter des éoliennes, je pense au câblage, en fait. Donc, toutes ces éoliennes, j'imagine qu'elles produisent de l'électricité. Comment le courant est acheminer et vers où? Et j'imagine qu'il y a des infrastructures existantes, et est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a déjà des infrastructures existantes au niveau du câblage qu'on en rajoute encore plus? Et peut-être donc dans le futur, comme il y aura des gros câbles qui vont tout acheminer, on risque d'encore en avoir d'autres projets qui vont encore agrandir. Voilà. Ça me fait un peu peur.
Est-ce que vous réutilisez le câblage qui a été placé pour les 7 éoliennes qui existent déjà pour le projet plus ambitieux qui est présenté ce soir, et c'est peut-être pour ça qu'on vient installer justement d'autres éoliennes dans la région de Bièvre?
Oui. Donc une partie en effet du raccordement pourrait en effet être réutilisée, mais il ne sera pas suffisant. Donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau en effet raccordement supplémentaire si les 11 éoliennes sont autorisées, pour pouvoir raccorder l'entièreté du projet. Mais aujourd'hui, encore une fois, je le répète, on est vraiment ici pour construire en recueillant vos remarques, vos avis sur cet avant-projet de 11 éoliennes. Et tant qu'on n'a pas, on va dire, fait toutes les études en détail et une bonne connaissance, on va dire, des impacts et des enjeux, notamment biologiques sur la zone, on ne sait pas si au final le projet final comportera 11 éoliennes. Tout ça pour dire que Le tracé de raccordement, en tout cas le dimensionnement des câbles pour raccorder ce parc-là, sera fonction du nombre d'éoliennes et de la puissance. Et aussi des réponses des gestionnaires des réseaux au niveau des disponibilités des postes avoisinants. Voilà.
La question de monsieur, c'est aussi de savoir, est-ce que quand on est dans une zone où il y a beaucoup d'éoliennes, on risque d'en avoir encore d'autres plus facilement que des régions où il y en a moins?
Non, c'est aucun lien. Donc ici, pourquoi ce site-là a été sélectionné? Parce qu'il y a en effet un certain gisement potentiel de vent et des contraintes aussi, des paramètres techniques qui nous permettent d'installer des éoliennes. Parce que à certains endroits en Wallonie, il y a des contraintes, des servitudes aéronautiques ou des zones d'exercice militaire qui ne permettent pas d'installer des éoliennes. Donc tout ça doit bien être pris en compte justement quand on réfléchit à l'implantation d'un projet de parc éolien.
Ah, on va aller chez monsieur qui n'a pas composé de questions.
Donc Stéphane Motio, donc de Bièvre. J'avais plusieurs questions, points d'attention. Donc c'est vrai que par rapport à la taille des éoliennes, donc on passe de 150 à 250 mètres. Donc en termes de visibilité, on va être beaucoup plus impacté. Donc voir un peu au niveau de l'étude d'incidence, quelle est la méthodologie qui sera mise en place pour analyser ça. Le deuxième point, c'est par rapport à une situation plus proche des zones d'habitat existantes, notamment l'éolienne qui est la plus au sud. Ça risque aussi d'avoir des incidences plus importantes pour les riverains les plus directs. Et donc voir aussi si, en cas d'impact plus significatif, l'étude d'incidence pouvait se pencher sur une relocalisation de l'éolienne plus loin des zones habitées et peut-être plus au nord alors. Oui, donc l'éolienne la plus au sud qui est la plus proche de Bièvre en fait, qui est sans doute la plus proche des zones bâties, oui. Voir un petit peu par rapport à ça. Le troisième point, c'était par rapport à la zone forestière. Donc vous avez évoqué qu'il y avait des réticences de développer des projets éoliens dans les zones forestières, notamment liées à la vie ou au poids du DNF dans certaines décisions. Mais c'était pour voir s'il y avait des contraintes légales qui étaient plus strictes ou des conditions plus strictes qu'en zone agricole. Et la quatrième question,
on va peut-être y aller step by step parce que sinon on risque de ne plus rien comprendre. Moi j'ai déjà oublié votre première question, rappelez-la brièvement.
Par rapport à la modélisation des vues paysagères.
Voilà, alors comment ça va se passer, Gilles Delfos, pour des éoliennes de ce gabarit-là qui vont donc certainement dépasser la cime des arbres, c'est le but pour aller chercher le vent évidemment. Est-ce que vous allez modéliser ça comme vous le feriez pour des éoliennes implantées en zone plutôt de champs ou en abord de plus direct de villages?
Oui, on travaille exactement de la même façon. Hein. Donc, pour déterminer, quantifier l'impact visuel, on a différents outils. Donc, j'en ai parlé brièvement, mais on a ce qu'on appelle des cartographies de zones de visibilité. Et en fait, c'est des cartes qui permettent de localiser les zones depuis lesquelles les éoliennes seront visibles. Alors, on peut faire des comparaisons entre les éoliennes existantes et les éoliennes en projet. Comme ça, on peut remarquer quelles sont les zones qui n'étaient pas concernées, qui vont le devenir, etc. C'est un premier élément. Après, il y a les photomontages, où on a une comparaison pour à peu près 25 points de vue tout autour du site, comparaison entre l'existant et le projet, on peut voir effectivement la différence de gabarit. Voilà, et puis après des analyses effectivement plus qualitatives sur l'intégration paysagère, le respect des lignes de force, etc. Et en ce qui concerne, je vais rebondir peut-être sur la deuxième question de monsieur, par rapport à l'impact visuel, en particulier de l'éolienne la plus au sud, ben c'est sûr qu'on accorde une importance toute particulière aux habitations qui sont les plus proches. Et donc là, on a une méthodologie qui va vraiment analyser la maison, l'orientation des façades, la présence de fenêtres, le fait que ce soit des pièces de vie ou des chambres, etc. Donc ça va très loin, ça peut être très poussé et ça peut amener effectivement à mettre en évidence qu'une 250 mètres à cet endroit-là, c'est pas approprié. Et j'ai parlé dans ma présentation d'alternatives qu'on étudie. Ça peut très bien être une recommandation de limiter par exemple la hauteur de cette éolienne en particulier ou de la déplacer un peu plus vers le nord pour l'éloigner des habitations. Donc c'est vraiment le type de recommandations, de conclusions qu'on peut dégager d'une EIE, enfin d'une étude, et c'est tout son intérêt évidemment.
Troisième point,
c'était par rapport à la zone forestière, donc s'il y avait des conditions réglementaires plus strictes ou supplémentaires par rapport à leur implantation en zone agricole.
Oui. Alors au niveau réglementaire, il y a une différence. Je vais pas être trop technique, mais si vous voulez, les implantations d'éoliennes en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur sont autorisées, d'accord, dans la réglementation, pour autant qu'elles soient à une certaine distance d'une grande infrastructure. Une grande infrastructure sont les autoroutes, les lignes ferroviaires, etc. Et donc la seule différence réglementaire entre la zone agricole et la zone forestière, c'est qu'à la zone agricole, on doit être à moins de 1500 mètres. La zone forestière, on doit être à moins de 750 mètres de l'infrastructure en question. Donc ça, c'est la différence. Maintenant, au-delà des contraintes réglementaires, il y a des contraintes plus environnementales qui sont à prendre en compte. Les projets, je l'ai dit, en zone forestière, ben, ils n'ont pas très bonne presse, on va dire ça comme ça pour le moment, en tout cas, avec comme je l'ai dit, les réticences qui sont plutôt liées, non pas des impacts visuels, mais des impacts sur la biodiversité. Donc les contraintes sont pas les mêmes.
Et alors, il y avait une quatrième question qu'on n'avait pas eue, mais on l'a gardée.
Un dernier point, vous en avez parlé, hein, c'est par rapport au démantèlement des éoliennes existantes. Donc il y a un recyclage qui est fait en partie. C'est pour voir si vous pouvez en dire un peu plus par rapport à ça. Et ce qui est notamment fait par rapport au socle et aux aires de manœuvre et d'accès aux éoliennes existantes.
Donc vous voulez redire la remise en état aussi des voiries qui ont été créées, des aires de manœuvre, etc. Alors qu'en est-il du démantèlement des éoliennes? On en a parlé brièvement tout à l'heure. Les obligations par rapport de Luminus, par rapport à ces éoliennes qui seront à démanteler bientôt et après l'exploitation des nouvelles à venir.
Donc les obligations, qu'on soit clair, c'est le démantèlement de toutes les éoliennes, hein, y inclut la fondation, hein, à l'exception des pieux. Ça, c'est la réglementation, puisque les pieux, c'est très compliqué de les dégager. Ça fait...
Ils sont en dessous de l'embase en béton, hein.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, faut imaginer une grosse fondation circulaire d'environ 20 mètres, 25 mètres de diamètre, hein, qui fait plus ou moins 3 mètres, peut-être même plus quand il s'agit vraiment d'éoliennes de grand gabarit, on peut probablement descendre encore plus bas. Et en dessous de cette grande fondation circulaire, on peut avoir besoin d'installer des pieux en fonction des caractéristiques du sol, hein, de leur stabilité, etc. Donc ça, ce sont des colonnes, généralement, des colonnes en ballast qui sont installées sous la fondation. Et ces colonnes-là, on ne va pas les enlever parce que c'est des contraintes techniques épouvantables. Ça n'empêche pas d'exploiter le terrain dans son état, de remettre le terrain dans son état initial. Ça ne gêne pas l'exploitation, que ce soit forestière, agricole ou quoi que ce soit.
Très bien. Je crois que j'avais vu, on a été au bout de vos points, monsieur, très bien. J'avais vu une main se lever ailleurs pendant qu'on était ici. C'est tout à l'arrière, sur le banc. La question peut venir de partout. Monsieur, vos noms, prénoms, localité.
Robert Leduc, Jardine. Moi, je me posais une petite question. Ici, le premier parc, il était prévu pour 25 ans. Donc, après 15 ans, on le change. La vraie réalité, c'est que le certificat vert, après 15 ans, il n'y en a plus. Le parc, sans les certificats verts, le parc actuel, il devient limite rentable. Donc, la vraie raison, est-ce que ce n'est pas de rattraper des certificats verts pendant 15 ans, et tant qu'on y est, ben, on a grandi un peu, quoi.
Voilà, est-ce qu'il y a une question de certificat vert
par rapport au fait qu'on va anticiper la fin du parc actuel pour arriver avec un repowering et des éoliennes plus grandes et plus nombreuses.
Oui, donc en fait, on ne va pas démonter les éoliennes maintenant. Hein. Donc les éoliennes, je disais, elles ont 15 ans, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est parti pour 3 ans d'études, 1 an d'instruction du permis minimum, plus 2 à 3 ans de préparation à la construction. Donc au niveau du planning, on est...
Une vingtaine d'années, quoi.
Voilà, on est à 2031-2032, pas avant. Et donc, nous, notre politique, en tout cas chez Limus, c'est de pouvoir, si la santé, puisque c'est comme une voiture, hein, de l'éolienne le permet, de pouvoir l'exploiter jusqu'à sa durée maximale. Et donc, grâce au travail de Claude et de Skander qui sont ici, donc notre objectif, c'est justement d'exploiter l'éolienne en toute sécurité et de pouvoir faire en sorte que sa durée de vie soit prolongée au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je parle sous contrôle de Claude et de Skander, c'est qu'actuellement, les éoliennes nos plus anciennes arrivent à 20 ans de durée d'âge et nous avons aussi déjà prévu de prolonger leur extension jusqu'à 25 ans et ensuite, on verra au fur et à mesure justement des années et des signes de vieillesse, hein, comme une voiture, hein, si on continue ou pas à l'exploiter. Mais on anticipe, on prépare, et ce repowering, ce nouveau projet, pour répondre à la question de madame, ben, on commence à l'étudier pour justement être prêt au moment où on décidera de démanteler les éoliennes et de les remplacer par ces nouvelles éoliennes plus performante.
On parlait de recyclage avec monsieur tout à l'heure. Parfois aussi, le matériel qui est démonté resserre ailleurs en deuxième main, dans d'autres pays parfois.
Tout à fait. Si l'éolienne est, voilà, certains éléments, on va dire, ou certains composants de l'éolienne peuvent être utilisés, elles peuvent servir en pièces détachées pour certains autres de nos parcs éoliens ou pour d'autres éoliennes à l'étranger. Et pour rebondir, je disais, donc il y a 90% de l'éolienne, plus de 90% qui peut être recyclé, et ça peut être notamment réutilisation dans des matériaux pour refaire des routes, ou aussi, ça c'est aux Pays-Bas, réutilisation de certains, par exemple les pales, pour faire des mobiliers urbains, donc ça peut être des garages ou des pour vélos. Donc il y a toute une série de projets qui peuvent être faits pour justement réutiliser certains composants de l'éolienne. Voilà.
Alors, monsieur, je vois que vous avez une question en rapport avec le feuillet qu'on vous a distribué.
Voilà, mon nom est Marc Chelen, j'habite à Bellefontaine. Ça me fait beaucoup plaisir qu'il y a tellement de monde de Bellefontaine ici. Ça veut dire que ça nous concerne tous. Pourquoi ? Parce que c'est un très très beau village, très pittoresque, où habitent beaucoup de Flamands qui investissent encore dans l'immobilier. Voilà, c'est une remarque générale. Mais ma question est plutôt quand je vois que vous êtes capable à produire 150 gigawatts, produire 43 000 ménages, est-ce que ça vaut la peine encore qu'on s'inquiète pour un élargissement de ce parc éolien vers Bellefontaine et Oudremont?
Par la suite, vous voulez dire?
Par la suite, oui.
C'est ma question. Voilà, est-ce qu'il y a déjà un plan dans les coffres de Luminus de prolonger encore plus tard ce parc éolien?
Non, aujourd'hui, on vient vous présenter vraiment le potentiel ici qu'on estime maximum ici de la zone. Mais pour rebondir à ce que disait en amont de la réunion ici, donc comment dire, on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc dans nos usages électriques, nos consommations d'ici 2030, 2040, 2050 vont s'électrifier pour justement décarboner nos sociétés. Et donc vraiment, c'est un vrai enjeu d'avoir un mix énergétique le plus large possible pour pouvoir justement subvenir à ce besoin donc de consommation électrique. Et donc ce projet ici pourra y répondre en partie. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on vient remplacer par, je le disais, 25 gigawattheures de production pour les éoliennes actuelles. Ici, on parle, si les 11 éoliennes sont autorisées, de 6 fois plus de production pour, on va dire, une zone plus ou moins similaire. Donc c'est vraiment dans cet objectif de pouvoir subvenir à nos besoins de société, d'électrification dans les années à venir.
Donc il n'y a pas de projet d'élargir encore par rapport aux 11, hein?
Non, non, non.
Voilà, la réponse est claire, au moins, c'est non. Madame.
Je reviens aux éoliennes en zone boisée. En fait, donc, il est clair que bon, vous parliez d'utiliser les chemins existants, mais bon, pour manœuvrer des machins aussi grands, je suppose qu'il faut, ça va détruire les sols. Et aussi, ma question, c'était, vous avez parlé de compensation, mais lesquelles?
Par rapport au fait d'abattre des arbres, etc., on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Je ne sais pas si c'est vous, Brice Bourget, ou si c'est le bureau d'études qui peut nous donner quelques exemples.
Alors nous, on propose ce projet-là, et chacun a son rôle. Le bureau d'études va évaluer les incidences et ensuite va recommander des mesures de compensation. Donc il y a plusieurs types de mesures de compensation. En effet, ça sera des mesures de compensation assez spécifiques, puisque ce projet est en partie en milieu forestier. Mais ça peut être, je vais peut-être laisser Gilles répondre, mais il y a des mesures de compensation vraiment spécifiques sur base de recommandations qui pourront être mises en place dans le cadre de ce projet. Et c'est peut-être un peu trop tôt pour dire justement quel type de mesures de compensation. Ce que je vous invite peut-être, c'est d'ici 2 ou 3 ans, quand on aura terminé les études, de pouvoir aller consulter le dossier à la commune pour justement voir quelles seront les mesures que nous proposons de mettre en place en lien avec ce projet-là.
Et là, il sera quantifié, Gilles Delfosse, on saura combien d'arbres on est obligé d'abattre et quelles sont les mesures compensatoires.
Voilà. D'accord. Et en fonction des incidences, des impacts sur telle ou telle espèce, ça peut être, on le disait, les chauves-souris, on en a parlé, mais ça peut être la cigogne noire ou des espèces qui fréquentent justement les milieux boisés, ben on aura des mesures de compensation un petit peu différentes, justement en fonction justement des espèces qui seront rencontrées dans les études.
Voilà, alors j'ai l'impression, mais peut-être que c'est pas le cas et vous allez dire le contraire, mais qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les questions que vous vouliez aborder ce soir et qu'on commence à revenir sur des thématiques qui se répètent. Et en plus, on va le remontrer, je vais prendre ma petite télécommande qui ne fonctionne pas à plus d'un mètre du projecteur, pour vous rappeler les adresses auxquelles vous pouvez envoyer vos courriers dans les 15 jours qui arrivent, plus un petit bonus dû aux fêtes de fin d'année, trêve des confiseurs, donc jusqu'au 4 janvier en ce qui nous occupe. Vous écrivez au collège communal de Bièvre, rue de Bouillon 39 à Bièvre, et vous n'oubliez pas la copie Aluminus. Vous pouvez le faire aussi par adresse électronique, si ça doit être écrit dans votre feuillet pour la commune comme pour Luminus. Si c'est pas le cas, on vous donnera cette adresse électronique communale également. Vous pouvez prendre les photos, on va laisser ce slide à l'écran quelques instants évidemment. Et vous pouvez faire part de vos observations. D'autres questions qui ne vous sont pas venues spontanément ce soir, qui pourraient arriver demain, dans 2 jours, dans 3 jours. C'est aussi à ça que ça sert, c'est de pouvoir mûrir un peu ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, évidemment. Ça aura la même valeur que ce que vous avez dit ce soir. Donc tout ce que vous avez dit ce soir, toutes les questions qui ont été abordées ce soir n'ont pas besoin d'être répétées par écrit, puisqu'elles sont dans un procès verbal. Et je remercie encore nos deux secrétaires qui sont venus de l'administration communale, qui ont un petit peu moins le droit d'avoir écrit tout ce que vous avez dit ce soir, et qui sera donc acté dans le procès verbal de cette réunion d'information préalable. Voilà, au nom de Luminus, du bureau d'études, je vous remercie pour votre participation massive ce soir, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a un petit verre qui nous est offert juste à côté pour la suite. On pourra continuer à échanger en one-to-one, face à face, par rapport à ce projet et d'autres thématiques qui nous importent. Bonne soirée tout le monde.
Merci.